Poids Nu. Toute cette semaine, Stéphane Bou rencontre Rachel Hertel. Ce soir, l'apprentissage de la France.
Rachel Hertel, bonjour. Alors, à la fin de l'émission précédente, vous avez évoqué ce passage d'une langue à l'autre, du yiddish au français. Comment vous êtes installé pendant un moment dans une, on pourrait appeler ça une espèce d'entre-deux linguistique.
Oui, et pas et simplement du yiddish d'ailleurs, de toutes les autres langues qui m'habitaient en quelque sorte et qui faisaient contrepartie ou bien synthèse avec les celles que je connaissais et que je pratiquais.
J'ai bien compris ça, mais alors justement là je voudrais qu'on parle du français et de la France. Vous avez appris le français, mais on pourrait dire comment vous avez appris la France d'une manière générale, comment se faisait cette chose-là au début des années 50.
Ah oui, Stéphane, je vous répondrai à cette question, mais d'abord je voudrais vous dire quelque chose que j'ai oublié, à quoi je tenais, et j'ai l'esprit d'escalier, donc je vais vous le dire maintenant. J'ai oublié, en parlant de mon père biologique, de donner son nom, qui est Menel Chelupski, et j'ai oublié aussi de dire que quand nous sommes parti pour la France, nous avons changé de nom, nous nous sommes présentés comme une famille unie, comme sous le nom de Waldmann, c'est-à-dire de mon père adoptif.
C'est-à-dire que vous avez fait croire à l'époque à l'administration française que vous étiez...
J'ai fait croire à l'administration française que nous étions la famille Waldmann. Enfin, c'est pas moi, c'est évidemment mes parents qui l'ont fait.
Merci pour cette précision, Rachel Hertel. Alors, on revient à la question que je vous posais juste avant. Oui, comment apprend-on la France? Comment apprend-on un nouveau pays, comme ça a été votre cas au début des années 50?
Eh bien, écoutez, on apprend, comme je vous l'ai déjà dit, par toute la peau, par tout son être, par tous les pores de sa peau. Et avec la France, moi, j'ai une conception un peu différente peut-être de celle qui a cours. Moi, je me considère de nationalité juive et de citoyenneté française.
Qu'est-ce que ça signifie?
Cela signifie que pour moi, j'appartiens au peuple juif, je fais partie du peuple juif. Et si j'avais été aux États-Unis ou en Argentine ou ailleurs, j'aurais toujours été juive, mais de citoyenneté différente. Et je pense que ça ne m'a pas empêché d'être une bonne citoyenne. J'ai 37 ans et demi d'enseignement supérieur. Je pense que j'ai rempli mon rôle de française, mais en même temps avec cette sensation que j'étais fondamentalement juive en tant qu'être, en tant que personne, mais que j'étais de citoyenneté française.
Alors, compte tenu de ce que vous venez de dire, de nationalité juive mais de citoyenneté française, le fait que vous disiez ça aujourd'hui en 2017 dans un climat politique assez particulier où il est question de citoyenneté, de nationalité, d'identité, là j'ai tout de suite envie de vous demander, compte tenu d'ailleurs de votre vie de femme qui a immigré dans son enfance et qui est devenue française, ce que vous pensez tout simplement de l'actualité politique du moment qui est quand même extrêmement tendue sur toutes ces questions.
Bien écoutez, moi je suis de ceux qui sont pour l'accueil de tous ceux qui ont besoin d'accueil. Je me souviens par l'histoire, bien sûr, pas par ma propre connaissance, que quand les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, cherchaient des refuges dans différents pays et on les repoussait de toutes les côtes qu'ils abordaient, ils finissaient par se noyer dans la mer. Et je pense que nous sommes dans une période de migration où il est absolument impératif d'accueillir tous ceux qui, comme moi ou comme d'autres, cherchent un refuge.
Et cette attente aujourd'hui d'un récit national, on sent une demande de redéfinir ce que serait la France, ça doit vous paraître étrange, parce que pour vous, vous en parlez toujours comme une sorte d'évidence absolue pour vous. Et aujourd'hui, on a le sentiment que tout le monde s'interroge sur cette question.
Bien, c'est-à-dire que il y a eu une période dans les années 80, notamment avec le livre de Nora,
Les lieux de mémoire.
C'est ça, les lieux de mémoire. Il y a une sorte de nationalisme, d'épopée qui se projette et une vision de la France qui est une vision très unanimiste en quelque sorte, alors que maintenant les jeunes historiens revoient tout cela et montrent que la France, ce n'est pas cette épopée continue, mais c'était une sorte de mosaïque.
Vous, quand vous devenez française, vous avez le sentiment que c'est facile ?
Oui. Ça m'est tout à fait naturel. Ça m'est aussi naturel que le yiddish. Pour moi, quand je traduis, par exemple, je lis la phrase en yiddish et je l'entends en français.
Ça vous est facile pour vous, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça est facile aussi pour ceux au milieu desquels vous arrivez ? Est-ce que vous sentez que ça résiste ? Est-ce que vous sentez, par exemple, de l'antisémitisme, de l'hostilité devant des fraîchement émigrés ?
Très honnêtement, je n'ai pas ressenti, étant donné le milieu dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire d'une part le milieu yiddishophone, d'autre part le milieu universitaire, je n'ai pas eu l'occasion de me heurter à l'antisémitisme. Et par ailleurs, les choses sont très claires pour moi, c'est-à-dire que j'annonce la couleur tout de suite, ce qui coupe toute velléité d'hostilité.
Oui, je comprends. Et alors, je vous posais la question, hein, comment devient-on française ? Vous m'avez répondu d'une manière très subjective, très affective, mais concrètement, l'école, les camarades, les petits Français avec lesquels vous vous retrouvez en classe, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là de votre adolescence, de votre enfance ?
De mon adolescence, alors, oui. Ben, écoutez, moi, j'étais une studieuse par essence, j'étais avide de tout apprendre et donc l'école a été pour moi un moment de joie et de partage et d'imprégnation aussi. J'ai eu vraiment des plaisirs intellectuels extraordinaires, mais toujours avec cette particularité que je pouvais le confronter à un monde qui était moins abstrait, qui était le monde du yiddish où on ne parlait pas par figure de style, mais où on parlait directement de l'âme, sorte, bien sûr, entre guillemets.
Et vos parents, est-ce que ils se sont correctement, pourrait-on dire, intégrés à la France ?
Non, mes parents ne se sont pas intégrés. Mon père parlait à peine le français. Ma mère parlait mieux le français. Mais enfin, ils ne se sont pas intégrés à la France. Ils ont vraiment vécu dans leur monde yiddish.
Pendant des décennies, donc ?
Absolument, puisqu'ils ont disparu en 2002.
Ils ne parlaient pas français ?
À peine.
Et avec vos enfants, par exemple, ils parlaient en quelle langue ?
Alors, eux, ils parlaient yiddish et les enfants répondaient en français.
Rachel Hertel, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus précisément de ce qu'a été la vie de vos parents en France pendant plusieurs décennies ? Vous avez dit qu'ils se sont très peu intégrés, mais vous êtes restée très discrète sur ce qu'a été concrètement leur existence en France, au milieu des Français. Quelles ont été leurs vies ? Quelles ont été leurs activités
Ils ont eu des activités absolument trépidantes. Ils n'arrêtaient pas de créer, d'écrire, de participer à des manifestations de divers ordres dans le domaine yiddish et pas du tout dans le domaine français. Ils ont eu une vie très trépidante, extrêmement intéressante, qui moi m'a passionnée et dont j'ai la nostalgie souvent parce que moi je suis devenue une petite bourgeoise alors qu'eux étaient des bohèmes, de vrais. Donc, vous voyez, alors, en ce qui concerne leur vie quotidienne, c'était une vie de pauvreté et de bohème, comme je vous l'ai dit, sans aucune règle préconçue ou sans aucune espèce de contrainte. Ils vivaient, comme on dit en yiddish, comme des Luftmenschen, c'est-à-dire des gens de l'air. Ils vivaient du temps de l'air, si vous voulez, pour être plus précise. Financièrement, je n'en sais rien parce que je ne m'en suis jamais intéressée étant enfant. Mais la maison dans laquelle on vivait, toutes les portes étaient ouvertes à chacun. Et chacun venait quand il voulait. Il n'y avait pas de rendez-vous pris. On passait chez le voisin comme on passait chez les voisins dans leur shtetl à eux. Donc, en fait, nous, on était au cinquième étage dans une pièce de peut-être 10 mètres carrés. On était 5 habitants dans cette pièce. On était pauvres. On vivait effectivement de la main à la bouche tous les jours. Mais quand, par exemple, le soir, un voisin passait et ma mère me disait « Est-ce que vous avez déjà dîné ?» Parce que, vous savez, on a déjà mangé toute la viande qu'il y avait dans la soupe. Je peux vous offrir de la soupe, mais pas de viande. Et mon frère et moi, on pouvait de rire parce que jamais il n'avait eu de la viande dans cette soupe.
Mais là, vous parlez des premières années.
Des 4 années passées.
Des 4 années, mais les 40 années qui ont suivi.
Les 40 années qui ont suivi, ils ont eu une vie absolument passionnante. Mmh. Ils ont eu une vie difficile, mais passionnante, parce que trépidante, parce qu'ils étaient toujours, par bons et par vaux, dans le cercle yiddish, à des soirées, à des conférences, à des expositions, parce qu'il y avait une association de peintres juifs. Et, ils allaient au théâtre yiddish, bien sûr, et à des représentations, ils s'occupaient des maisons d'enfants.
Mais qu'ils aient voulu rester au sein de ce monde yiddish pendant des dizaines d'années, certes, enfin, je comprends très bien, mais comment vous expliquez-vous qu'ils n'aient pas voulu faire un pas vers le pays dans lequel ils vivaient? On a le sentiment qu'ils se tenaient à distance.
Ils se tenaient absolument à distance, ils restaient dans leur univers. Univers avait été détruit et ils voulaient rester dans cet univers qui était détruit et le faire vivre aussi intensément que possible.
Oui, c'était un geste très très décidé.
Très décidé, parents ne nous ont jamais parlé en français, n'ont jamais essayé de nous parler en français et c'était une langue qu'on n'entendait pas chez moi.
Et les romans de votre mère, dont vous nous avez dit déjà que vous les aviez traduits en français, de quoi parlaient-ils ?
Alors, Le vent qui passe est un roman autobiographique. Les deux, d'ailleurs, sont plus ou moins autobiographiques. Le premier, Le vent qui passe, parle de la perte de son premier mari. Et le deuxième parle des différents exils qu'elle a connus.
Alors, vous avez écrit dans un texte, cette phrase que je voudrais vous lire. Vous avez écrit que c'était formulé très tôt pour vous, pendant l'adolescence, en l'occurrence dans ce phalanstère juif dont vous nous avez parlé lors de la précédente émission, comme un impératif catégorique, ce sont vos mots, le désir de faire connaître et reconnaître la littérature yiddish. Autrement dit, très tôt, vous savez que vous voulez devenir une traductrice du yiddish. Alors, pourtant, vous faites des études qui ne vous mène pas directement vers ça, puisque vous allez passer l'agrégation d'anglais et votre premier livre sera consacré à la littérature américaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petit balancement-là qui contredit un petit peu ce que vous avez écrit ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait contradiction. C'est-à-dire que ce que je dis là, c'est que je ne me voyais pas comme traductrice, je me voyais comme porteuse de yiddish à l'époque. Quand j'étais adolescente, je ne me voyais pas comme traductrice.
Porteuse de yiddish ?
Porteuse de yiddish, c'est-à-dire celle qui le porte en elle, celle qui le vit en yiddish.
Mais celle qui le porte aux autres aussi.
Et celle qui le porte aux autres éventuellement, mais à l'époque, si vous voulez, je ne pensais pas en termes de traduction ou d'enseignement, j'étais trop jeune pour y penser en ces termes-là. Mais effectivement, j'ai fait un détour par les États-Unis avant de commencer effectivement ce que j'appellerais ma carrière, si on peut parler de carrière, et ma transmission du yiddish. Je suis passée par les États-Unis. Alors, si vous voulez savoir pourquoi...
Absolument, je veux savoir pourquoi.
Eh bien, je vais vous le dire.
Pourquoi, comment, qu'est-ce qui... Vous avez vécu là-bas?
Voilà.
Vous avez...
J'avais, comme je vous l'ai dit, il y avait entre le yiddish et le français, et dans l'école notamment, une certaine raideur dans le français que je ne trouvais pas dans le yiddish, qui était la langue sentiment, la langue affective, la langue émotion. Et... la France est très jacobine, c'est-à-dire que la diversité n'est pas reconnue, elle ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et les États-Unis, pour moi, représentaient, mythiquement peut-être, mais j'avais déjà passé mon bac, j'avais 18 ans, les États-Unis représentaient pour moi cette diversité que je ne trouvais pas en France. Cette diversité, cette possibilité d'être juive américaine, d'être italo-américaine, d'être slovaco-américaine. ce que n'était pas le cas en France.
Oui, parce que je reviens quand même sur la formule de nationalité juive et de citoyenneté française. C'est un petit peu scandaleux de dire ça en France, compte tenu de cet esprit.
Je l'admets. Je sais que peu de gens partagent mon avis.
Évidemment, mais...
Mais les États-Unis représentaient cela pour moi. Et puis comme l'occasion fait le larron, j'ai eu l'occasion de partir un an aux États-Unis. Donc je suis partie aux États-Unis et effectivement j'ai suivi des cours à Columbia.
Donc à New York.
À New York. Et là me suis intéressée évidemment à la culture américaine, cette espèce d'énergie que dégageait la ville, cette espèce de flamboyance de la ville. Je crois que vraiment je l'ai vécu de manière extrêmement intense.
Et puis New York est la plus grande ville juive du monde.
Et New York est la plus grande ville juive du monde. Et donc, ce que je n'ai pas pu trouver en France, c'est-à-dire une littérature qui soit française et juive, les deux en même temps, je dis française-juive, c'est-à-dire une synthèse, je l'ai trouvé aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Je n'ai pas fait de détour, en fait. Tous ces écrivains américains dont je parle dans le roman juif américain sont des fils d'immigrés, en fait, que ce soit Malamud, que ce soit Bello, que ce soit Philip Roth, que ce soit, enfin, on pourrait citer des dizaines. Et ils ont réussi à écrire une littérature qui, pour moi, représente beaucoup de choses, parce que c'est une littérature qui me rappelle ce conte de Peretz qui s'appelle « La métamorphose d'une mélodie ». J'ai trouvé dans ces livres qu'il y avait une métamorphose du yiddish en américain. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à cette littérature et que j'ai non pas fait un détour, j'ai pris juste une autre forme d'approche, une autre forme de regard, une autre forme de vécu de cette littérature que celle que je pouvais avoir à l'égard de Racine, par exemple.
Mais entre Racine et le 20e siècle, il y a eu d'autres écrivains. Vous avez jamais trouvé dans la littérature française des auteurs susceptibles de faire naître en vous.
J'adore la littérature française. Je pense que c'est la plus grande littérature qui soit. Donc j'ai effectivement beaucoup fréquenté la littérature française et les contemporains. En ce moment, je trouve que nous sommes dans un creux et je lis surtout des traductions de l'allemand parce que je trouve qu'il y a plus de matière. Mais la littérature française, bien entendu, est ma littérature, tout comme le yiddish est ma littérature, tout comme l'américain est ma littérature.
Et comment vous expliquez-vous qu'aux États-Unis, il a été possible que naisse une littérature, en effet, où on a le sentiment que quelque chose comme une synthèse entre le yiddish et la langue anglaise soit créée, et pas en France où il y a eu une forte communauté yiddish et des écrivains venant du monde yiddish en France.
Oui, vous savez comment Ozick appelle la littérature yiddish juive américaine?
Qui? Elle l'appelle... J'ai pas entendu. Comment, qui?
Cynthia Ozick, c'est une écrivain judéo-américaine et qui parle de yinglish. Eh bien, c'est un peu ça que je trouvais dans la littérature, cette métamorphose de la mélodie de la littérature yiddish.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi en France, alors que des écrivains venant du monde yiddish ont vécu et sont devenus français et ont écrit, pourquoi cette métamorphose mélodique dont vous parlez n'a pas opéré, selon vous ?
Parce que je pense que c'est un pays qui admet mal la diversité. Ce qui, d'ailleurs, n'enlève rien à ses autres qualités, hein. Mais je pense que c'était quelque chose d'inenvisageable. Toutes les discussions, tous les débats sur la langue, sur ce qui entre dans la langue, on n'entre pas dans la langue. La langue, elle ne demande la permission à personne d'accepter des mots ou de ne pas accepter des mots. Donc, l'américain est truffé de mots yiddish, est truffé de mots espagnol, est truffé de mots et de toutes sortes. Le français refuse. Le français, c'est la pureté. La pureté a ses avantages, ses inconvénients aussi.
Donc, en quelque sorte, quand vous quittez la France à ce moment-là, à la fois physiquement pour aller vous installer quelques années aux États-Unis, un an aux États-Unis, et ensuite plusieurs années pour travailler sur ce livre, le roman juif américain et toutes ces lectures. En fait, vous quittez la France pour vous rapprocher, donc vous allez vers l'Ouest pour retrouver quelque chose de l'Est, en somme, c'est ça?
Exactement. Vous avez vraiment mis le doigt dessus. L'Ouest est mon Est à moi.
Et donc, en 3 ans, deux livres sortent, le roman juif américain, oui, et le livre sur le shtetl, la bourgade juive. Au fond, moi, dans un premier temps, je les voyais comme très différents l'un de l'autre. Mais en fait, c'est une sorte de diptyque pour vous. C'est la fin du trajet, quoi. Vous revenez à l'origine du lieu même d'où proviennent ces écrivains américains.
D'une certaine manière. Mais il y a autre chose dans mon désir d'écrire le shtetl, puisque c'est un livre plus historique, plus ethnologique que littéraire, en fait. C'est que il me fallait absolument, avant de passer au stade suivant, qui est le moins gai de mon parcours, c'est-à-dire à Hourbn, avant de passer à ça, je voulais montrer non pas les juifs morts, mais les juifs vivants, tels qu'ils vivaient dans leur shtetl, tels qu'ils vivaient dans leur grande ville, tels qu'ils, toutes leurs activités quotidiennes et toutes leurs activités intellectuelles.
Mais vous avez toujours traduit à la fois des livres écrits par des rescapés, par des victimes, puis par des rescapés, et qui évoquaient l'anéantissement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et des livres qui venaient de l'histoire de la littérature yiddish depuis le 15e siècle, en somme.
Non, je n'ai
pas... cette histoire qui dure depuis plusieurs siècles,
c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un très beau livre de... comment il s'appelle Le monde des livres, je crois, non pas le monde du livre, mais le monde des livres, et qui retrace justement la littérature juive ancienne. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la littérature juive ancienne. Moi, ce qui me fait vivre, c'est ce que j'ai découvert de vivant avant l'extermination.
C'est-à-dire, je voudrais que vous développiez ce point-là.
Que je développe ce point-là, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me lancer. J'étais effectivement totalement obsédée par l'extermination. Et en même temps, je me disais, je ne peux pas me lancer dans l'extermination avant de montrer que les Juifs ne sont pas un peuple mort depuis toujours, mais que c'est un peuple qui a été extrêmement vivant, extrêmement actif, extrêmement, contrairement à ce qu'on pense, y compris dans l'histoire, qui a pris un rôle dans l'histoire. Ça n'a pas été une passivité historique, ça a été une participation à l'histoire mondiale, tellement bien que le yiddish est une synthèse d'allemand, d'hébreu, de slave, de latin, de grec, de tout ce qui a existé. Donc c'est une langue monde en quelque sorte. Et ça, je voulais le montrer, y compris dans la langue, y compris dans la vie de ces hommes qui partageaient les cultures des différents pays qu'ils traversaient et qui se nourrissaient de cette culture. Malheureusement, la langue étant trop, c'est le sort des petites langues, elle ne pouvait pas rendre ce qu'elle prenait ailleurs. Mais ce qu'elle prenait ailleurs c'était une sorte de caisse de résonance du monde entier. Et dans sa culture également, une caisse de résonance du monde entier et surtout de la modernité.
Oui, pour revenir à votre livre, parce que le shtetl, c'est un livre d'histoire aussi. C'est un livre où vous sortez un petit peu de votre domaine.
Et tout à fait. Vous avez parfaitement raison. C'est une chose que je me suis imposée de manière extrêmement volontariste, précisément pour montrer cette vitalité de l'histoire juive que tout le monde montre comme une passivité historique. Le shtetl et les grandes villes juives étaient des lieux où l'histoire se faisait aussi bien ici que ailleurs dans le monde.
Vous vouliez camper le cadre dans lequel est née cette longue histoire qui apparaît dans les deux volumes, par exemple, de Royaume juif, qui est une histoire de la littérature yiddish, que vous avez coordonné, vous en avez traduit en partie, qui montre toute cette littérature. Et on pourrait dire que le shtetl, c'est à la fois le versant historique qui plante le cadre, et les deux énormes volumes de la collection bouquins Royaume juif sont ce qui en provient.
Oui, ils en proviennent, mais ils proviennent à partir du début de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Je ne me suis jamais aventurée sur les anciennes travées de la littérature yiddish.
Et pourquoi cela d'ailleurs?
Pourquoi? Parce que c'est une... D'abord parce que j'étais dans la vie et que le passé m'intéressait, mais de manière un peu distante. Et ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait de bon temps. Il s'est passé beaucoup de choses de bon temps, de quoi m'occuper en tout cas.
De votre temps, mais vous parlez de la, du tournant du 19e et du 20e siècle, ce n'est voilà. pas exactement votre temps.
Non.
Du on, temps de vos parents.
On peut dire maintenant.
Tout à l'heure, je parlais de... Enfin, je vous citais, et je citais cette formule très forte, hein, impératif catégorique, votre impératif catégorique, à savoir ce désir de faire connaître et reconnaître la littérature yiddish. Vous en avez parlé à travers ces travaux que vous venez d'évoquer. Mais traduire, le désir de traduire. Je voudrais vous poser une question toute bête. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première traduction du yiddish vers le français que vous avez fait?
Je pense que c'était un poème de Leivik. Je ne me souviens plus lequel, mais je
Leivik,
pense que...
Leivik, celui que vous appeliez, qui vous apparaissait comme Dieu le Père.
Comme Dieu le Père. Mais écoutez, j'ai l'impression d'avoir toujours traduit. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de souvenir d'enfance, je n'ai pas de souvenir de ma mère me parlant, je n'ai pas de souvenir de ma mère me chantant des berceuses. J'avais toujours l'impression que je traduisais ce qu'elle ne me disait pas.
Vous avez des souvenirs de Paris, le phalanstère juif, vous en avez longuement parlé.
Oui, bien sûr. Mais je vous dis, puisqu'on remonte au commencement, je vous dis que j'ai l'impression d'avoir toujours traduit. Et je crois que la première activité intellectuelle est celle de la traduction. Parce que la pensée est floue. C'est de la traduire qui la rend claire. Et je pense que la traduction, pour moi, est aussi une manière de formuler ce qui est le plus profond et le plus difficile à cerner.
Mais c'est étrange parce que vous parlez de la traduction comme si c'était une activité qui pouvait appartenir au domaine d'une seule langue. La traduction, c'est une opération qui consiste à passer d'une langue dans une autre.
Mais bien entendu.
Et vous en parlez comme, de,
non,
comme quelque chose de plus.
Non, mais j'ai traduit de l'anglais, j'ai traduit du français en yiddish, j'ai traduit du yiddish en français, etc. Donc non, la traduction pour moi est une activité à plein temps.
Ah, vous voulez dire que vous traduisiez comme une presque comme un passe-temps intellectuel ou comme un exercice spirituel, on pourrait dire.
Exactement. Je pense que la traduction en soi est un exercice spirituel.
D'accord. Et c'est en ce sens qu'effectivement, la pensée se trouve de nouveaux contours, en fait, à partir de cet exercice-là. Oui. Je comprends. Merci Rachel Hertel. Bonsoir et à demain.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Bou avec Rachel Hertel. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.